Vous écoutez, on lit pour vous.
Association religieuse, espace public et désinformation. Un texte de Marie-Claude Girard, paru le 24 juillet 2023 dans Le Devoir. La tendance des médias à considérer les associations religieuses comme de bons porte-parole pour communiquer les préoccupations des communautés culturelles à l'égard des politiques publiques peut-elle mener à de la désinformation? Plusieurs groupes d'intérêt interviennent dans le dossier de la laïcité au Québec. D'un côté, le Mouvement laïque québécois pour les droits des femmes du Québec et le Rassemblement pour la laïcité militent, comme leur nom ou leur statut l'indiquent, en faveur de la laïcité. De l'autre, des associations religieuses telles que le Conseil national des musulmans canadiens, la World Sikh Organization of Canada, l'Association de droit Lord Reading et l'Alliance des chrétiens en droit défendent des principes en accord avec leurs dogmes religieux. Ces prises de position antagonistes sont l'apanage d'une saine démocratie. Cependant, des questions se posent lorsque les interventions d'un groupe d'intérêt sont perçues comme reflétant les préoccupations de l'ensemble d'une communauté culturelle donnée, comme c'est souvent le cas pour des associations religieuses. Les associations religieuses. Il faut savoir que le Québec se distingue des autres provinces puisque c'est ici que se retrouve la plus forte proportion de personnes qui estiment que leurs convictions religieuses ou spirituelles ne sont pas très ou pas du tout importantes, 40%, quant à leur façon de vivre leur vie, par rapport à seulement 15% à 25% dans les autres provinces. Le Québec se démarque aussi par une plus faible proportion de personnes participant à une activité religieuse en groupe au moins une fois par mois, soit 14% contre de 21% à 32% dans les autres provinces. Cette spécificité québécoise laisse supposer que les Québécois ont moins tendance à s'identifier aux positions de leur Église lorsqu'il est question de politique publique. S'ajoutent à cela les résultats d'une importante étude effectuée auprès de 130 000 membres du clergé américain de 40 confessions différentes qui démontrent que l'affiliation confessionnelle est très instructive pour l'inscription d'un pasteur à un parti, mais pas pour celle d'un fidèle, et que de nombreux fidèles, en particulier dans les églises conservatrices, ne sont pas politiquement alignés sur leur pasteur. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un groupe partage les mêmes convictions religieuses qu'il y a consensus au niveau politique. Il importe aussi de prendre en considération les objectifs des associations religieuses lorsqu'elles interviennent au niveau des politiques. L'enquête internationale de l'AWID, Association pour les droits des femmes dans le développement, a notamment établi qu'une des stratégies utilisées par les fondamentalismes religieux pour exercer une influence sur la société et la politique était d'en pénétrer l'espace politique et public. De grands efforts de recrutement ont lieu ainsi dans les écoles, les collèges et les universités par l'entremise de la valorisation de l'identité religieuse aux dépens de la citoyenneté commune. Ces informations factuelles invitent donc à la prudence lors de l'interprétation des préoccupations d'une communauté culturelle par le prisme des associations religieuses. Rôle des médias. Le rôle des médias dans une société démocratique est d'informer la population des questions qui la concernent avec le plus d'objectivité possible. Or, dans le dossier de la laïcité, les médias ont, semble-t-il, peu remis en question la représentativité effective des associations religieuses ou encore les objectifs qu'elles visaient lors de leur prise de position. Cette absence de questionnement, lorsqu'il est question de politique publique, est fort préoccupante. En politique, un chef de parti cherche à obtenir un minimum de 90% d'appui pour se sentir légitime dans son rôle de porte-étendard de la vision de ses membres. Les représentants des différentes communautés religieuses peuvent-ils se targuer d'avoir un taux d'appui similaire auprès de leurs membres lorsqu'ils se prononcent sur les politiques publiques? ce serait étonnant. Ce serait bien que les médias en tiennent compte lorsqu'il est question d'informer adéquatement la population sur des questions politiques en tout respect de la souveraineté des citoyens. Ne pas le faire contribue à la désinformation. C'était Association religieuse, espace public et désinformation. Un texte de Marie-Claude Girard paru le 24 juillet 2023 dans Le Devoir.
Le Powell Street Festival de Vancouver. Une fenêtre culturelle pour mieux comprendre la dure réalité des immigrants asiatiques du siècle dernier. Un texte de Marc Béliveau, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique. Les activités festives du quartier Japantown de Vancouver ont repris cette année avec plus de 20 000 personnes présentes à la 47e édition du Powell Street Festival. Il s'est déroulé les 6 et 7 août 2023 lors du long congé du BC Day. Il s'agit du plus ancien festival artistique et communautaire du Canada et du plus important de la Colombie-Britannique. Il célèbre la vitalité de la culture japonaise traditionnelle et contemporaine, reflétant les jours heureux de cette petite communauté asiatique établie à Vancouver depuis plus de 150 ans. Rares sont les occasions de revêtir le kimono ou le yukata, seul ou avec ses enfants, et de célébrer son identité culturelle dans un lieu public à Vancouver. Le Powell Street Festival est l'événement par excellence permettant à la communauté nippo-canadienne de se rassembler et de faire valoir sa culture et son identité. Au fil des ans, le festival est devenu beaucoup plus inclusif, comme l'explique Emiko Morita, la directrice générale. Le festival est né d'un mouvement populaire et la participation s'est très diversifiée. En plus de la communauté japonaise, il y a les résidents du quartier, les étudiants qui apprennent le japonais, les nouveaux immigrants et le grand public. Le programme du festival a également évolué pour inclure diverses activités et événements. Par exemple, le festival propose des installations interactives, des activités pour enfants, des démonstrations d'arts martiaux, des tambours taiko, des tournois de sumo amateurs, des cérémonies du thé, des démonstrations d'ikebana et de bonsaï. Il présente également des talents locaux, nationaux et internationaux, notamment des artistes, des interprètes et des musiciens. Ainsi, plus de 250 bénévoles participent au succès de l'événement. On retrouve aussi des dizaines de kiosques de nourriture, d'échanges d'informations et de cours de japonais. Il y a aussi plus d'une trentaine de performances artistiques, des visites guidées du quartier et des forums de discussion. Jusqu'à 500 artistes professionnels et amateurs font partie de la distribution de ces activités culturelles et communautaires. En plus des activités récréatives et conviviales, plusieurs kiosques d'information, dont celui du National Nikkei Museum, situé à Burnaby, répondent aux nombreuses questions du public. Les gens qui s'arrêtent au kiosque sont généralement à la recherche de leur généalogie familiale, explique Mme Diane Hide, archiviste du musée et elle-même canadienne d'origine japonaise depuis 3 générations. Elle ajoute qu'il y a aussi des chercheurs universitaires qui veulent en savoir plus sur la diaspora japonaise en Amérique du Nord. Elle soutient que le sujet mérite plus d'attention, soulignant le projet de recherche initié par le National Nikkei Museum et l'Université de Victoria. intitulé « The Past Wrongs, Future Choices », le projet s'étalera sur une période de 7 ans. Il vise à documenter l'impact de la Seconde Guerre mondiale, notamment la dépossession de leurs biens et l'emprisonnement de populations japonaises déjà établies à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Brésil. Cette recherche débouchera sur la création d'une exposition au musée Nikkei en 2029, en plus de fournir du matériel pédagogique pouvant soutenir des ateliers de formation et de réflexion dans les écoles. Cette année, des visites sont également proposées dans le quartier de Strathcona pour retracer l'importance des émeutes anti-asiatiques de 1907. En fait, plusieurs historiens canadiens nous rappellent le destin tragique de plusieurs communautés asiatiques, qu'elles soient japonaises, chinoises ou indiennes, lors de leur établissement sur la côte ouest. Selon la directrice du festival, Emiko Morita, le Powell Street Festival n'est pas en quête d'expansion. Il est important de le maintenir dans sa facture actuelle. Elle rappelle un aspect insoupçonné de l'événement. Le festival sert de retour au bercail à de nombreux nippo-canadiens de partout au Canada qui profitent du festival pour y rencontrer des amis et des membres de leur famille. C'était le Powell Street Festival de Vancouver, une fenêtre culturelle pour mieux comprendre la dure réalité des immigrants asiatiques du siècle dernier. Un texte de Marc Béliveau, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique.
L'impression 3D, une invention qui stimule la créativité. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad. Étienne Maillet est un casse-cou, touche-à-tout, créateur et imaginatif. Figurez-vous que depuis son appartement, il imprime toutes sortes de petits objets servant à faciliter son quotidien et celui des autres. Utiliser les innovations technologiques qu'il crée lui-même est presque devenu une seconde nature. Avez-vous déjà vu fonctionner une imprimante 3D? C'est plutôt impressionnant d'imaginer que ces petites machines peuvent faire apparaître des objets en trois dimensions à partir d'un logiciel qui leur en a donné l'ordre. Les gens qui viennent chez moi voient souvent des imprimantes 3D pour la première fois, sourit Étienne devant la caméra de son ordinateur. Le jeune tétraplégique de 27 ans est installé en Abitibi, à Rouyn-Noranda, une ville de 50 000 habitants, au nord du Québec, près de la frontière ontarienne. Alors, même avec toute la volonté du monde, difficile de faire 7 heures de route depuis Montréal pour réaliser une entrevue. Heureusement, la technologie me permet de lui parler et d'entrevoir une partie de son appartement qu'il a, comme il le dit, transformé en un petit atelier d'impression au fil du temps depuis 2 ans. Tout à sa création et son passe-temps, Étienne possède 3 imprimantes 3D. La petite dernière a rejoint les rangs de sa collection il y a à peine 1 mois. Elle peut imprimer 6 fois plus vite et sortir plusieurs couleurs en même temps. Avec celle-là, j'appuie sur « Démarrer » et elle part toute seule, raconte-t-il, heureux comme s'il donnait un coup de baguette magique. créer des aides techniques. Depuis qu'il a commencé à s'intéresser aux imprimantes 3D, après son accident dû à un mauvais plongeon au bout d'un quai dans un lac, il y a 4 ans, Étienne s'est donné pour passion de créer différentes aides techniques. Il cherche à se faciliter la vie, mais aussi celle des autres qui en auraient besoin. S'étant retrouvé célibataire, cette activité est venue combler une bonne partie de son temps. Il a créé des poignées pour canettes qui permettent de les ouvrir plus facilement quand on ne peut pas bien utiliser ses mains. Il a aussi créé des aides pour tourner le volant de la voiture adaptée et les pitons installés sur le volant. Il a imaginé un porte-carte qui lui permet de sortir les cartes d'un coup en pressant un petit bouton. D'autres fois, il remplace les pièces de machine ou de fauteuil qui sont brisées, qui sont introuvables sur le marché ou mettent des mois à être remplacées. Il imprime encore des choses aussi banales qu'un porte-rouleau de papier de toilette. Dans son malheur, Étienne a eu de la chance car il possédait une très bonne assurance invalidité au moment de son accident. Il était alors employé comme mécanicien dans les mines de nickel du nord du Québec depuis 7 ans et recevait un très bon salaire. À l'époque, il était toujours dans ses bagages, 21 jours sur place puis 2 ou 3 semaines à la maison. Il aimait son travail qui lui demandait une bonne motricité, une force dans les doigts. J'aime beaucoup essayer des choses. Maintenant, sa nouvelle passion, qui ne sera plus jamais un métier, le pousse vers la créativité, l'invention, la réinvention. Je n'avais jamais travaillé comme ça avant. Quand une personne me parle d'un projet, je vois le projet dans ma tête. J'aime beaucoup essayer des choses. Je me mets à l'ordinateur et j'ai un logiciel pour créer des pièces. J'utilise mon imagination. Certaines fois, je dois modifier des pièces ou une partie. Quand j'imprime, j'ai l'impression que des robots travaillent pour moi. L'impression 3D lui a aussi permis d'apprendre la patience. J'avais de la misère avec ça. Je suis plus patient maintenant, mais plus le matin que le soir, avoue-t-il. Étienne est très matinal et après son entraînement quotidien, il se consacre sans relâche à ses impressions. Il a toujours de nouvelles idées ou on lui en apporte. Le bouche-à-oreille et Facebook achèvent de lui fournir les demandes qui manquent à combler son temps pour rendre service. J'ai fait des roses en plastique pour la Saint-Valentin. Pour Noël, j'ai imprimé des filaments fluorescents pour des étoiles à mettre sur le sapin. Je les ai donnés à ma famille, à mes amis. Mes frères et sœurs ont pas mal d'enfants. Tetra 3D Printing. Tetra 3D Printing. Tetra pour tétraplégique. Le nom qu'il a donné à ses créations et à sa page Facebook n'est pas le seul passe-temps d'Étienne. Resté casse-cou dans la mesure de son nouveau possible, il possède un Smart Drive et un fauteuil Track Z équipé d'une roue électrique à l'avant depuis 1 an. Il a déjà parcouru 830 km l'été dernier et ne compte pas s'arrêter là. Sa tétraplégie partielle lui donne des défis, mais elle lui permet aussi de voir quelques belles améliorations. Aujourd'hui, il peut se tenir debout facilement pendant 15 à 20 minutes et marcher quelques pas chez lui à l'aide d'une marchette. Après l'opération de transfert nerveux qu'il a subi aux 2 bras, il peut davantage se servir de ses mains. Étienne a été un des premiers à subir cette opération au Québec. Aujourd'hui, et avec toute la vie devant lui, Étienne ne voit pas ni de limite à sa création, ni à la réalisation de ses rêves, quels qu'ils seront. Avantage de l'imprimante 3D permet de créer des pièces sur mesure et de remplacer des parties d'équipement manquantes, permet de stimuler la créativité et ne demande pas d'être dépendant d'un tiers pour recevoir et commander ses pièces. Accès rapide au matériel. Limite de l'imprimante 3D, son coût et les connaissances informatiques et techniques liées à son utilisation. Avantage du Smart Drive et de la roue Track Z permet le déplacement sur de nombreux kilomètres de façon autonome. Limite du Smart Drive et de la roue Track Z, leur coût. C'était l'impression 3D, une invention qui stimule la créativité, un texte d'Aline Vancon-Pernol, paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad.
Le super-pouvoir de l'imaginaire. Une chronique de Sophie Gagnon-Roberge, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Quand on compare la littérature jeunesse à la littérature adulte, on peut se demander si les adultes ont quelque part perdu leur capacité à s'émerveiller et à croire tout simplement qu'il existe un réel différent et peut-être un peu plus magique que celui de leur quotidien. Cette semaine, au détour d'une allée dans une librairie indépendante, j'ai eu le plaisir de surprendre une conversation entre un père et sa fille. « Mais est-ce que ces enfants existent pour vrai ?» a demandé on ne peut plus sérieusement la fillette à son paternel. Elle avait beau être au début de son primaire et assez rationnelle, elle n'en était pas moins bien intriguée par « Les incroyables ou les enfants les plus étonnants que j'ai rencontrés », un livre format presque géant des éditions Kaléidoscope. Signé Clotilde Perrin, ce dernier s'ouvre sur une citation d'Oscar Wilde « Je peux croire n'importe quoi, pourvu que ce soit absolument incroyable ». Il faut dire que l'autrice-illustratrice, qui s'est elle-même mise en scène sur une des toutes premières pages, affirme qu'elle a bien rencontré ses enfants. Mais est-ce possible? Déjà, dès la double page où la table des matières prend la forme d'une carte permettant de découvrir et de situer chacun, les noms peuvent porter le lecteur à douter. L'enfant poilu passe encore, mais l'enfant volant, vraiment? Puis ce livre, qui joue avec le format documentaire tout en étant bel et bien imaginaire, nous présente une ribambelle de personnages, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. Généralement présenté sur deux pages en vis-à-vis, avec une grande illustration proposant un portrait de plein pied, puis de plus petites qui servent le propos, chacun repousse les frontières du possible. Ayant fait le choix d'écrire au jeu, Clotilde Perrin donne ainsi l'impression que chaque enfant se présente lui-même. L'occasion de se définir, mais aussi de parler de ses aspects les plus marquants, que ce soit sa vitesse effarante, sa réaction aux trop nombreux bisous de ses parents, ce qui est invivable selon l'enfant gâteau, ou encore les variations de sa forme selon ses émotions, comme l'enfant nuage. Mon préféré, l'enfant clic-clac, qui se plie en un tournement et peut se transporter vraiment facilement. Voilà un enfant parfait pour vivre un tour du monde, n'est-ce pas? Dans tous les cas, impossible que ces enfants soient réels, vous dites-vous. Et vous avez sûrement raison. Il n'en reste pas moins que cette œuvre est une main tendue à l'imaginaire des enfants, une porte ouverte sur l'univers des possibles. Plus sage peut-être, mais tout aussi réjouissant, de nombreux livres de Marianne Dubuc sont dans le même esprit. Les histoires que l'autrice-illustratrice crée mettent ainsi souvent en scène de petits animaux qui vivent tels des humains et permettent au lecteur de découvrir des histoires qui les touchent et abordent des thématiques qui les concernent tout en jouant avec l'imaginaire. Est-il vraiment possible d'aller déjeuner dans un arbre avec ses amis Marcel la souris, Doris la tortue et Léon le lapin? Non? Détrompez-vous. C'est ce que fait Lucie, petite héroïne de Marianne Dubuc, que les éditions Albums font vivre ou revivre, après Lucie et compagnie, comme des géants, dans les albums « Été » et « Automne » parus dans le dernier trimestre de 2023. Avec ses illustrations réalisées au crayon de bois, immédiatement reconnaissables à la douceur et à la bienveillance qui s'en dégagent, Marianne Dubuc signe une pluralité de courtes histoires regroupées selon les saisons. Casser la croûte, faire une chasse au trésor, trouver quelqu'un pour prendre soin des oisillons qui éclosent des œufs qu'Adriel Escargot a trouvés, les trois aventures du recueil « Été », par exemple, sont à hauteur d'enfant. Au fil des pages, on s'émerveille, on est ému et surtout, on a envie de faire partie d'une telle bande. Ce sont aussi des textes accessibles tant grâce au vocabulaire simple utilisé qu'à la structure de chacun des courts récits. Voilà qui en fait des albums parfaits pour rejoindre celles et ceux qui apprennent à lire et pourront s'identifier à l'héroïne, même si leur vie ne ressemble pas exactement à la sienne. Cette capacité à transcender le réel et à s'ouvrir à l'imaginaire est très utile dans plusieurs situations du quotidien, mais aussi quand notre monde prend la couleur de la cendre, quand tout s'effondre autour de soi. Publié pour la première fois en 2022 dans une maison d'édition ukrainienne, Le papillon jaune est un de ces récits qui peuvent servir de baume quand tout va mal et que nous percute dès la première lecture. Créé par l'auteur et illustrateur Oleksandr Chatokin, ce livre est à la fois un magnifique album sans texte qui parle de guerre et un rappel que l'imaginaire est essentiel pour survivre au réel et entretenir l'espoir. Pour croire un futur possible et meilleur, pour s'évader, débardeler ou encore surmonter la colère, quand les bombes continuent de tomber. Ainsi, l'héroïne, jamais nommée, est d'abord dessinée dans un cadre sans lumière où le danger guette chaque pas. Heureusement, l'espoir prend la forme d'un papillon qui la guide à travers les pages et hors de la dureté de son réel. Et si le premier lépidoptère jaune suscite la curiosité, ce qu'il crée quand il se multiplie apporte de l'espoir. C'est un des super-pouvoirs des livres, le saviez-vous? Et si l'imaginaire, du moins la partie plus merveilleuse, se fait parfois plus discret au fur et à mesure qu'on vieillit, les albums jeunesse sont toujours là pour réveiller l'enfant en nous et nous permettre de croire, tout simplement, même quand, et surtout quand, c'est incroyable. C'était « Le super-pouvoir de l'imaginaire », une chronique de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.